bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marie Jacquot. Bonjour.
Bonjour, c'est un plaisir pour moi.
Alors, j'avais eu l'occasion de vous interviewer il y a quelques mois, et puis votre actualité est tellement riche et tellement chamboulée qu'il y a bien des sujets qui affleurent et qu'on va évoquer, au premier rang desquels votre nomination toute fraîche à l'Opéra Royal de Copenhague, une magnifique institution. Et vous me disiez, en micro, c'est le plus ancien orchestre du monde.
C'est ça, oui. Ils ont commencé, on va dire, avec un orchestre d'harmonie. Ça fait déjà, c'est 1600 et quelques, il faut regarder les dates, il faut vérifier. Et donc c'est la première institution créée en tant que, oui, qu'institution comme pour soi-même d'orchestre, donc la plus vieille au monde.
Donc vous avez donné un concert là-bas il y a quelques mois et vous ont choisi pour devenir...
Exact. J'ai dirigé une production d'opéra, Faust de Gounod, en septembre. Et c'est très important pour un chef d'orchestre quand la chimie fonctionne. Et la chimie a très bien fonctionné avec les chanteurs, l'orchestre, le chœur et l'administration. Et donc on a réfléchi pour continuer notre collaboration et on est arrivé sur cette entente de devenir chef de l'opéra.
Alors jusqu'à présent, vous étiez chef de deux institutions en Allemagne, Marie Jacquot. Donc vous dirigez en allemand. Et là, en quelle langue vous dirigez à Copenhague ?
En anglais, effectivement, oui.
Et donc les musiciens sont essentiellement des musiciens danois ou...
Oui, pour la plupart, effectivement. Il y a beaucoup de musiciens des pays scandinaves. Il y a également beaucoup d'étrangers, il me semble, des Français, des Allemands, des Japonais. Donc, tous les pays du monde et également la plus grande partie des Danois, effectivement. Mais les Danois sont culturellement très ouverts sur l'anglicisme. Donc, l'anglais, ce n'est pas un problème là-bas.
Donc, vous disiez que vous aviez dirigé Faust. On vous appelle pour diriger particulièrement un répertoire français ou alors vous aurez un libre choix du répertoire?
En général, pour la structure de cet orchestre, ils essayent toujours d'engager des chefs qui correspondent au répertoire. Donc probablement, j'ai été engagée en tant que française pour diriger le répertoire français. Et comme ça a très bien fonctionné, maintenant j'aurai bien sûr l'occasion de diriger d'autres pièces et peut-être nous concentrer sur Wagner et Richard Strauss.
Ah oui, non, mais alors, cette fascination que vous avez pour l'opéra, cette passion pour l'opéra, c'est impressionnant. On a l'impression que vous êtes tellement heureuse de diriger. Et c'est quand même un monstrueux de contraintes, cet art de l'opéra.
Ah bah, effectivement, c'est une passion qui est arrivée assez tard. Parce que quand
enfin,
je
assez
suis
tard,
pas...
excusez-moi, mais vous êtes quand même bien jeune, Marie Jacquot.
Oui, c'est-à-dire que quand j'ai commencé la direction d'orchestre en tant que tromboniste dans l'orchestre, j'avais une fascination pour le répertoire symphonique. Et j'étais pas très attirée par l'opéra. Je pense que mes parents n'ont pas eu la chance d'avoir accès à l'opéra, donc n'ont pas donné la chance également à leurs enfants. Mon premier opéra, c'était Carmen, à l'opéra Bastille, et ensuite Wozzeck.
Donc c'était contraste.
C'était un gros contraste, et ce qui m'a toujours, à l'époque, un peu, repoussée de l'opéra, ce sont les livrets. Que je trouvais assez banaux, en fait. Toujours je t'aime, je t'adore.
Enfin, votre sexe,
et
c'est
à
pas
la
ça,
fin,
non, quand
on,
même.
On meurt tous.
Oui, votre sexe, on meurt, mais pas de la même manière.
Oui,
que
non, le livret de votre sexe
enfin,
est un peu
toujours
plus
la femme
poussé.
Qui meurt.
Exactement, il y a toujours un drame, il y a toujours quelqu'un qui meurt. Et voilà, et les chanteurs, la voix, j'avais pas beaucoup d'affinité avec ça. Et comme je n'étais pas pianiste, et en Allemagne, on commence normalement sa carrière en tant que chef de chant, répétiteur, et ensuite on monte les échelons. Pour devenir chef de chapelle et ensuite chef principal. Je me suis toujours fermé la porte de l'opéra parce qu'il n'y avait pas d'affinité. Et en plus, en tant que non-pianiste, j'imaginais jamais rentrer un jour dans une maison d'opéra. Et j'ai postulé à Würzburg et c'était un poste sans obligation pianistique. C'était le premier opéra dans ma vie et ça a tellement matché avec la pièce. C'était Die Lustigen, les Joyeuses Commères
de
Windsor,
de Nicolai.
Exact.
C'est un opéra qui est malheureusement pas beaucoup donné
en
France.
Pas beaucoup, c'est fantastique, oui. Musique incroyable. Et ça a fonctionné tout de suite avec l'orchestre et j'ai dirigé le premier opéra dans ma vie. Et maintenant j'ai effectivement cette fascination pour l'opéra qui est pour moi en fait le... la base du métier de chef d'orchestre.
Oui, on a l'impression que vous avez un itinéraire comme ces chefs à l'ancienne, ces grands chefs, notamment allemands, qui passaient toujours par la fosse avant d'aborder le répertoire symphonique. Enfin, c'est vraiment une carrière, voilà, encore une fois, à l'ancienne que vous menez, Marie-Jacques.
Oui, effectivement, c'est une carrière inattendue parce que, juste, comme je vous expliquais, ce n'était pas la direction dans laquelle je me voyais dans un futur. Mais maintenant que j'y suis, ça fait déjà 6 ans que je travaille dans des maisons d'opéra, je peux vraiment affirmer que être chef d'opéra, c'est comme un travail de travailler, comment on dit, un travail proche du bois ou
enfin c'est, oui, c'est un artisanat artistique.
Comment créer et mettre les gens ensemble, rassembler les gens pour faire une production. C'est beaucoup d'attention, il faut beaucoup de communication, il faut s'adapter, une énorme adaptation. C'est un peu comme un caméléon. Chaque circonstance, il peut se passer quelque chose d'intéressant ou bien une catastrophe qu'il faut réussir à remettre dans la voie. Et donc ça, c'est pour moi la fascination du métier du chef d'orchestre. Ensuite, quand on dirige un concert symphonique où on a 4 jours de répétition. Normalement, quand on a lancé l'orchestre dans une direction musicale, pour le concert, le chef d'orchestre n'a plus besoin vraiment de maintenir l'orchestre ensemble. L'orchestre joue tout seul. Si c'est un orchestre de bon niveau, l'orchestre n'a pas besoin de chef. Pour motiver, pour donner le plus, la cerise sur le gâteau, ou bien une direction spontanée d'un changement d'interprétation, on a besoin d'un chef. Dans un opéra, on a toujours besoin d'un chef. Un opéra sans chef, ça ne fonctionne pas.
Oui, tout se casse la figure, parce qu'il y a tellement de contraintes, les chanteurs, la mise en scène, enfin, vous êtes aux aguets surtout, Marie-Jacques. En même temps, ce stress, ça doit être galvanisant quand même.
Je pense que quand on est en train de quand on fait partie de ce processus créatif, on oublie toutes les contraintes. C'est comme j'ai fait beaucoup de tennis quand j'étais jeune et je me souviens.
Vous avez hésité d'ailleurs entre.
Oui,
les
j'ai
deux.
Hésité entre devenir professionnel ou non. Et du coup, le fait d'être concentré pendant 2 heures ou 2 heures et demie sur son match de tennis, d'arriver à se transcender pour gagner, c'est la même chose dans la fosse d'orchestre. C'est pas pour gagner, mais c'est se transcender pour l'art, pour la musique, pour les musiciens, pour le public. Et donc c'est un peu en relation effectivement avec ce sport de haut niveau en quelque sorte.
Et alors à l'Opéra Royal de Copenhague, donc vous allez commencer vraiment la saison 2024 en fait, Marie-Jacques, donc vous commencez à la préparer, mais comment ça se passe? Il y a à la fois vous les œuvres que vous adorez, et puis vous parliez de Richard Strauss, Richard Wagner, et puis il y a aussi les contraintes de l'opéra. Faut donner quand même un certain éventail d'œuvres pour les goûts du public et puis la découverte aussi. Il y a un certain nombre de contraintes qui ne vont pas forcément dans vos goûts personnels.
Exactement, oui, on a un éventail de répertoire assez large. On doit faire... on a une merveilleuse compagnie de ballet.
On a la chance quand même en France de pouvoir l'avoir, cette compagnie de ballet.
Exact,
ouais,
exact.
Ouais, c'est, heureusement... C'est un des bonheurs qu'on a.
Ouais. Dans peu de grandes maisons d'opéra ont cette chance d'avoir un ballet vraiment très, très, très fort et très soutenu également. Il y a un énorme intérêt de la population de voir du ballet à Copenhague également. Et donc du ballet, de l'opéra, des concerts ou bien des opéras pour la jeunesse, c'est très important. Il faut penser plus à la jeunesse de nos jours, à mon avis, c'est le futur de la musique classique. Et on a également des musicals, parce qu'on essaye aussi d'attirer un autre public dans l'opéra qu'on pourrait gagner peut-être pour une représentation de Traviata ou de Walküre, l'opéra du grand répertoire, on va dire.
Et votre regard sur les livrets, il a changé? Vous parliez du fait que vous trouviez ça un peu ridicule au départ.
On va dire que ça dépend des œuvres. Effectivement, Wozzeck a un livret un peu plus soutenu que Carmen, par exemple.
Carmen, le livret, il est beau quand même, mais il y a Kea Levy. C'est quand même pas n'importe quoi.
Non, c'est pas n'importe quoi. C'est toujours ces histoires de mourir on va dire, l'opéra peut être autre chose, comme Peter Grams, par exemple. Il meurt à la fin également, enfin, on imagine. Mais l'histoire est quand même plus développée, un peu plus raffinée, je trouve.
C'est un compositeur que vous aimez diriger, Britten, justement?
J'ai encore rarement dirigé Britten, et Peter Grams n'est pas encore dans mon répertoire, mais oui, dans un futur, absolument.
Donc là, il y a plein de projets immédiats, enfin des projets, des annonces immédiates. Et, bah, Carmen, justement, et puis il va y avoir aussi un opéra de Peter Hedveux. Ça, c'est une reprise.
C'est une reprise que je vais avoir la chance de diriger au Semperoper de Dresde. Et Carmen également, dans la même période. Ça sera en juin prochain. Et ce sera l'occasion d'avoir un premier contact avec la Staatskapelle de Dresde, avec
rien
l'orchestre.
Que ça.
Effectivement, oui.
Ça, vous êtes gâtés au niveau des orchestres.
Oui, non, je n'ai pas à me plaindre, mais chaque orchestre, quelle que soit la renommée, est toujours un plaisir de connaître un orchestre. C'est comme rencontrer une personne pour la première fois.
Et alors, comment ça se passe, alors, pour les auditeurs, chef d'opéra, comment ça se passe le travail, vous décidez de diriger tel opéra ou on vous demande de diriger tel opéra, donc comment ça se passe? Vous allez l'écouter d'abord ou vous allez avoir juste une relation avec la partition avant même de l'écouter?
Alors, tout dépend dans quelles circonstances on est engagé. Si on est engagé pour une première, c'est-à-dire une nouvelle production, on participe à la production du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire on commence les répétitions scéniques, d'abord les répétitions musicales avec les chanteurs seuls pendant 3-4 jours, et ensuite on commence les répétitions scéniques, les répétitions qui sont là pour le régisseur afin
régisseur,
que les chanteurs...
Le régisseur, c'est le metteur en scène.
Metteur en scène,
vous
excusez-moi.
Vous parlez à l'allemand.
Oui, excusez-moi. Pour le metteur en scène afin que les chanteurs peuvent raconter l'histoire d'une façon théâtrale sur la scène. Et ensuite, on met la mise en scène et la musique ensemble. L'orchestre arrive dans la fosse, les chanteurs arrivent sur scène et le chef d'orchestre est là pour englober tout le processus créatif.
Justement, vous parlez de metteur en scène, ça doit être passionnant en même temps. Puis, au fil du temps, vous avez rencontré un grand nombre de metteurs en scène. On ne va peut-être pas parler des mauvaises expériences, mais vous avez eu de très belles expériences. Et il y a des metteurs en scène qui vous donnent justement un éclairage de l'œuvre que vous n'aviez pas envisagé. Vous avez des exemples comme ça de metteurs en scène avec qui vous discutez? Non, enfin, c'est toujours conforme à l'idée que vous aviez au départ?
Non, bien sûr, c'est toujours très enrichissant de travailler, que ce soit avec des metteurs en scène ou avec des pianistes qui ont déjà travaillé avec les chanteurs, ou bien avec des chanteurs qui ont déjà travaillé la pièce.
Sur l'œuvre, oui.
Qui ont déjà chanté cette pièce peut-être une dizaine de fois. Donc, chaque personne est un enrichissement, en quelque sorte. Les metteurs en scène ont parfois une vision de l'œuvre qui ne rentre pas dans les concepts qu'on aurait pu s'imaginer. Effectivement, c'est intéressant de pouvoir avoir cette ouverture d'esprit, de placer l'œuvre dans un autre contexte, dans un autre contexte historique ou politique. Ça, c'est effectivement très très enrichissant. Mais c'est toujours je pense qu'une bonne collaboration avec un metteur en scène et un chef d'orchestre, c'est celle où on arrive toujours à trouver des compromis.
Vous parliez de Carmen que vous avez dirigé, qui est le premier opéra auquel vous avez assisté. Ça fait quoi justement de diriger l'opéra qu'on a entendu enfant ou adolescente et de se retrouver à le diriger? Ça doit faire un drôle d'effet.
C'est justement un très drôle d'effet parce qu'à l'époque, je n'étais pas très opéra affine de l'opéra. Et donc, je suis très curieuse de voir quelle relation émotionnelle je vais ressentir en dirigeant cette pièce de nouveau. Enfin, pour la première fois, et de l'entendre et de la diriger. Mais encore une fois, pour moi, la chose la plus importante, peut-être avant le résultat, c'est la relation humaine, c'est le contact communicatif avec les chanteurs et l'orchestre. Donc rencontrer la Staatskapelle de Dresde pour la première fois, c'est une... une émulation très... c'est palpitant, en fait. J'y attends beaucoup.
On est quand même impressionné par l'ampleur déjà du répertoire que vous avez acquis, Marie Jacot. Vous avez dirigé je ne sais pas combien d'opéras. D'ailleurs, on va vous retrouver en France, à Nancy, on peut le dire, déjà pour L'amour des trois oranges de Prokofiev. Ça, c'est une prise de rôle, si je puis m'exprimer ainsi, pour vous. Cet Amour des trois oranges, vous l'avez déjà dirigé?
Non, c'est la première fois, effectivement. Il y a beaucoup d'opéras que je n'ai pas encore dirigé, heureusement. On va faire donc L'amour des trois oranges à Nancy en français. Ça sera une
en français.
Oui, en français. Ça sera une première. Il me semble que c'est original.
Oui, d'ailleurs, original, oui, ma réflexion était déplacée.
Pas de problème. Donc je me réjouis parce que c'est une œuvre absolument extraordinaire qui est rarement exécutée.
Mais oui, et puis on l'a vu à Bastille il y a une quinzaine d'années, mais on ne peut pas dire que ce soit une œuvre qu'on a le loisir d'écouter souvent. Ça aussi, c'est une œuvre foisonnante, d'une richesse incroyable. Ça, c'était l'Opéra de Nancy qui vous a demandé cette œuvre.
Exactement, oui. Et je pense que, comme je vous ai raconté, chaque rencontre avec un nouvel orchestre est tellement intéressant et une ouverture sur autre chose, sur d'autres rencontres. Et avec une pièce absolument merveilleuse comme celle-là, quelle raison ne pas dire non? Ne pas dire oui, pardon.
Alors, vous êtes tromboniste, Marie Jacot.
J'étais, oui.
Oui, vous avez plus le temps de travailler votre instrument.
Oui, c'est un peu plus pragmatique.
Très sportivement exigeant, le trombone.
Effectivement, oui, mais plus d'un point de vue plus pragmatique. Mais ma dentition a changé, du coup, l'embouchure ne passe plus vraiment.
Ça devenait compliqué.
Ça devient assez... comme on dit, schmerzhaft, douloureux.
Il y a d'autres chefs d'orchestre qui ont été trombonistes au départ. Il y a des noms qui vous viennent à l'esprit.
Oui, il me semble Sylvain Cambrelin.
Ah oui, donc les chefs interne.
Et d'autres, effectivement. Ça ne me vient pas maintenant, mais il y en a pas mal. Je pense qu'on a trop de mesures à compter dans l'orchestre. Donc beaucoup de temps de
regarder ce que fait le chef.
De regarder et d'écouter et d'apprendre.
Et on avait parlé du premier concert que vous aviez dirigé, où vous étiez très sûr de vous, vous pensiez à Karajan, et puis en fait, c'est avéré que l'expérience était beaucoup plus compliquée que ce que vous pensiez.
Effectivement, oui.
C'est devant un orchestre d'étudiants.
Oui, je m'en souviens très bien, c'était au lycée Racine. On avait la chance de pouvoir diriger un orchestre, l'orchestre du lycée. Et pour la première répétition, j'avais choisi l'ouverture Coriolan de Beethoven. Et vous savez, il y a cet accord au début, et j'avais en tête de ne pas battre toutes les noires. Donc de seulement donner l'impulsion, de tenir l'accord, et ensuite de donner le prochain accord. Sauf que ces notes unissons de tout l'orchestre durent deux mesures. Et pour des jeunes qui n'ont pas l'habitude de jouer, à l'époque, on avait 15-16 ans, qui n'ont pas l'habitude de jouer le répertoire, ils ont attendu que je batte chaque note, chaque temps. Et quand j'ai donné un accord très convaincant pour le deuxième accord de l'orchestre en secco, il n'y a rien qui est venu. Et c'était un choc émotionnel dont je me souviendrai toute ma vie. Et ça m'a donné ça a été clair pour moi que le chef n'est absolument rien sans l'orchestre.
Oui, c'est-à-dire que vous ne créez pas de son.
Exactement.
Vous êtes la seule.
Non, on peut imaginer, on peut donner l'impression de vouloir un son. Mais le son, l'émission du son, ça sera toujours l'orchestre qui le fera, toujours les musiciens.
Vous parlez, Marie Jacot, du lycée Racine par des sources bien informées. Je sais que déjà, quand vous étiez au lycée, vous aviez cette passion de devenir chef d'orchestre. Et je crois que clandestinement, vous lisiez pendant les cours des partitions. C'est ce que j'ai entendu dire. Je ne citerai pas mes sources. Mais donc, ça veut dire que c'est vraiment une passion qui vous a gagné.
C'était une passion liée à un professeur. Mon professeur le chef de l'orchestre du conservatoire de l'UC, près de Chartres, où j'ai grandi, était une personne passionnante, une personne très humaine et un excellent chef d'orchestre. Du coup, son aura, on va dire, m'a donné envie d'étudier avec lui. Et quand je lui ai demandé s'il donnait des cours, il m'a dit qu'il avait commencé depuis l'année dernière une classe de direction d'orchestre. Donc, j'ai commencé la direction d'orchestre. Et je dis sans arrêt, enfin, en général, je raconte l'histoire que s'il avait été boulanger, je serais devenue boulangère. C'était juste une personne tellement fascinante qui m'a ouvert la voie sur une possibilité de faire quelque chose d'autre. Donc, c'est pas inné, je ne voulais pas devenir chef d'orchestre. Je voulais juste apprendre de cette personne.
Et alors, il y avait des disques que vous écoutiez de chefs, de grands chefs que vous adoriez, justement, quand vous étiez petite.
Et donc, grâce à cette fascination pour cette personne, j'ai commencé à rentrer dans la direction d'orchestre, dans cet univers de direction d'orchestre par lequel il était lui-même fasciné. Et je me souviens que j'ai dirigé des vinyles à la maison. Je me souviens avoir dirigé une fois toutes les danses hongroises de Brahms.
Et alors, qui dirigeait avec vous?
Je me sens que c'était Karajan.
Je crois que vous adoriez Bernstein. Vous adorez Bernstein.
J'adore beaucoup de chefs. J'ai une fascination pour Carlos Kleiber. J'aime énormément Leonard Bernstein, Ozawa, Karajan pour beaucoup de choses. Tous les chefs d'orchestre ont quelque chose d'unique. Et je peux pas dire que j'ai une direction en particulier vers laquelle
quelqu'un
m'attire. Non, c'est chaque chef d'orchestre a quelque chose.
Ils sont très différents, ceux
exactement
que vous évoquez. Oui. Et alors, vous dirigez des orchestres, enfin, c'est quand même extraordinaire le nombre d'orchestres maintenant que vous dirigez. Bien sûr, vous allez être à l'Opéra Royal de Copenhague, chef principal, enfin, je ne sais pas comment on qualifie.
Chief conductor.
Oui, c'est ça. Directeur artistique. Voilà. Donc, ça veut dire que vous allez consacrer beaucoup de temps à cet orchestre de l'Opéra Royal de Copenhague, qui est d'ailleurs un nouveau bâtiment qui est somptueux, qui a l'air vraiment magnifique. Et l'acoustique, elle est comment? Vous avez pu la tester là, avec Faust, alors?
Oui, bien sûr, l'acoustique est très bonne. Les bâtiments sont nouveaux. C'était une commande de la reine. Et on a une possibilité technique sur la scène de bouger les plateformes ou de faire tourner qui est assez avancée. Donc, c'est une grande chance pour beaucoup de metteurs en scène de pouvoir élaborer des scénographies.
Tous ces orchestres que vous dirigez qui sont si différents, en même temps, vous, dans votre tête, Marie-Jaco, vous avez un son que vous voulez obtenir de l'orchestre avec des musiciens qui sont chaque fois différents. Bon, bien sûr, vous avez beaucoup travaillé en Allemagne et puis là, vous allez beaucoup travailler à Copenhague. Donc, il va y avoir une certaine proximité avec les musiciens, mais vous vous retrouvez avec des musiciens tellement différents.
C'est une question très intéressante parce que je pense que l'identité sonore d'un orchestre a changé depuis les dernières années. Grâce ou à cause de la mondialisation, les musiciens ont eu plus de possibilités de voyager à l'étranger et donc de prendre une certaine sonorité du pays dans lequel il a étudié ou travaillé et de le rapporter dans son propre pays. Je pense que c'est difficile maintenant d'identifier un orchestre seulement en l'écoutant de par cette richesse culturelle que les musiciens ont accumulée pendant les dernières années. La question intéressante, c'est de savoir, quand on dirige par exemple un opéra de Rossini à Düsseldorf, est-ce qu'on essaye d'aller dans une direction d'un son italien, on va dire peut-être plus percussif, plus rythmique, qu'un son allemand qui est plus lourd et plus rond? Est-ce qu'il faut idéalement, dans une vision musical, toujours essayer d'affluer à un orchestre un son, ou bien essayer de prendre le son qui existe déjà et de le former d'une autre façon pour peut-être donner quelque chose de différent. Et donc c'est une question à laquelle je suis souvent confrontée quand je rencontre un orchestre pour la première fois. Par exemple, si je vais diriger un orchestre français sur un répertoire allemand, est-ce que je prends les qualités d'un orchestre français pour baser mon interprétation, ou bien j'essaye d'influer à l'orchestre français un son allemand?
Et donc, à chaque fois, c'est une nouvelle question qui se pose.
Je pense que c'est toujours une nouvelle question qui se pose et ça dépend des moyens collectifs.
Et donc là, par exemple, à Copenhague, vous allez vous retrouver devant un public que nous, on ne connaît pas. Et il y a des attentes particulières de ce public. Enfin, il y a un répertoire qui est particulier à cet opéra royal de Copenhague. Et qui ici n'est pas du tout pratiqué en France, par exemple.
Oui, l'Opéra Royal de Copenhague a souvent été le centre de la Scandinavie pour les opéras de Wagner. Mais à l'époque, c'était toujours les opéras de Wagner qui étaient joués en danois. Donc, il y a une très, très grande attraction scandinave lorsque l'Opéra Royal de Copenhague met au programme un opéra de Wagner que nous jouons maintenant, bien sûr, en allemand.
Donc, c'est une de vos grandes passions, Wagner. Donc, on peut attendre que vous dirigiez du Wagner en 2024-2025 à Copenhague.
Je pense que ma plus grande passion est Richard Strauss. Donc,
ah oui, donc Richard
certainement,
Strauss,
certainement plus de Richard Strauss. Et c'est un souhait aussi de l'orchestre, justement, de se concentrer sur ce répertoire romantique allemand.
Mais avant d'aller, puisque là, vous avez passé plusieurs années en Allemagne, justement, c'est un répertoire que vous connaissiez, que vous aviez pratiqué, Richard Strauss, avant, justement, de diriger ces orchestres allemands ? Ou c'est venu par l'exercice de votre art là-bas ?
Non, effectivement, c'est pas un répertoire que j'ai encore eu la chance de pratiquer. Et c'est aussi car j'ai beaucoup de respect pour ces compositeurs. Et j'essaie de prendre mon temps et de ne pas brûler les étapes. J'essaie de commencer par la base et de structurer mon répertoire, l'avancement de mon répertoire petit à petit.
Eh ben, en attendant de pouvoir éventuellement un jour aller vous écouter à Copenhague, on aura la chance de pouvoir vous écouter à Nancy dans l'amour des phrases oranges. Et puis vous avez une actualité qui est extrêmement riche, Marie Jacquot. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
Merci à vous, c'était un plaisir.